Je voulais vous parler de l'image de Dieu, c'est-à-dire percevoir Dieu tel qu'il est. Psaume 17, verset 15, Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Nous allons voir que notre Père terrestre peut influencer l'image que nous avons de Dieu. Il faut bien reconnaître que l'image que nous faisons de Dieu est partiellement conditionnée et calquée sur l'image que nous avons de notre Père humain. L'image de notre Père terrestre peut affecter, selon les cas, l'image de notre Père céleste. Nous serons donc d'autant plus enclins à projeter sur Dieu les imperfections, les frustrations et les déceptions que nous pouvons éprouver parfois dans notre relation avec notre propre Père. Notre expérience de Dieu détermine en grande partie notre vision de Dieu et vice-versa. Or, si Dieu est parfait, objectif, absolu et infini, notre perception et notre expérience de Dieu, elles, restent toujours subjectives, relatives, limitées et incomplètes. Les idées fausses ou déformées que nous entretenons sur la personne de Dieu proviennent essentiellement de nos blessures passées et de nos croyances non fondées sur de la parole de Dieu. La vie est remplie d'expériences plus ou moins douloureuses au contact de notre prochain. Curieusement, les blessures les plus profondes nous sont souvent infligées par ceux qui nous sont les plus proches. Chaque blessure non guérie aura tendance à produire un germe négatif vis-à-vis de nous-mêmes, des autres ou de Dieu. Si cette mauvaise graine se développe, cela aura un effet négatif sur notre comportement et sur la manière dont nous réagissons envers les autres personnes et les circonstances de notre vie. Nous allons voir quelques blessures de la vie. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Les blessures liées au rejet. Personne ne s'est intéressé à moi, ni ne s'est soucié de mes besoins. On m'a dit des paroles méchantes et blessantes qui m'ont fait beaucoup de mal. On m'a empêché d'être moi-même en me forçant à me couler dans un moule et à plaire aux autres. C'est là le problème de ne pas savoir dire non. Effectivement, il est important de pouvoir dire non aussi. Les blessures liées à l'injustice. J'ai été victime de traitements injustes. On a abusé de ma faiblesse, de ma confiance et de ma crédulité. Les blessures enfouies. Je n'ai jamais voulu ou pu affronter ce problème trop douloureux pour moi. Je l'ai enseveli il y a bien longtemps, mais je me rends compte maintenant qu'aucune blessure émotionnelle non guérie n'est enfouie et morte. Elle est au contraire bien vivante. Nos blessures non guéries ont des conséquences dramatiques qui se manifestent essentiellement dans les domaines de la crainte et de la colère. La crainte. Mal-être, notamment en compagnie des autres, d'où la tendance à se replier sur soi-même, sentiment de crainte et d'insécurité, ce qui est un peu mon cas. Difficulté à faire confiance aux autres, comme à Dieu. 2 Timothée 1, 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La colère. Développement d'un esprit de jugement et de critique. D'amertume et d'amertume. Refus de pardonner et de céder. D'où une dureté et une rigidité sur soi-même, comme avec les autres. L'incrédulité. Le fait de croire ou de ne pas croire ce qui est vrai concernant la personne de Dieu n'ajoute ni n'enlève quoi que ce soit à la réalité. Dieu reste qui il est et comme il est. Simplement, notre foi honore Dieu et lui rend justice, tout comme notre incrédulité nous porte préjudice et nous prive d'une richesse inestimable. Il existe des solutions à ces problèmes. Jouer carte sur table avec le Seigneur, en lui faisant part de tous nos problèmes et en ayant le courage d'affronter la réalité en face et de verbaliser nos sentiments. L'aide d'une tierce personne en qui on a confiance pourra être très précieuse pour démêler certaines situations. S'efforcer de ne pas accuser Dieu ou tout autre bouc émissaire que nous rendons responsables de tous nos malheurs. Reconnaître nos torts en changeant d'avis et en acceptant de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu. Redécouvrir dans la Bible la vérité sur toute la personne et le caractère de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons redécouvrir la dimension de l'amour personnel, paternel de Dieu à notre égard, à qui nous pouvons faire confiance. Qui est le mieux placé pour nous guérir intérieurement? Nous accorderons notre pardon à ceux qui nous ont fait tort pour les libérer d'un passif à notre égard et nous délier du cercle vicieux de l'amertume. Restauration de l'image de Dieu. L'accès à la maturité chrétienne passe par la découverte et l'expérience d'une relation personnelle avec le Dieu de Jésus-Christ. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là où nous souffrons des blessures de notre passé ou encore là où nous entretenons des idées erronées sur la personne de Dieu, nous avons besoin d'être touchés par le Dieu de la grâce. Lorsque nous vivons la dimension d'une relation intime avec lui, tel un enfant avec son père, nous nous sentons et nous savons en sécurité, en liberté et en sérénité. Pour être libérés et restaurés, nous avons besoin de revenir au point de départ, événement, circonstance, relation, qui a donné lieu au blocage affectif ou à l'idée erronée afin de traiter le problème. Quelques mots sur la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est un puissant moyen pour déverrouiller différents blocages. Méditer la parole de Dieu consiste à se mettre à l'écoute de sa parole en laissant le Saint-Esprit qui l'a inspirée l'appliquer à notre propre cœur au point où elle nous transforme à l'image de Dieu. Le terme « méditer » vient d'une racine qui signifie en hébreu « ruminer ». Beaucoup d'animaux tels que brebis, boucs, antilopes, chameaux, vaches et girafes font partie des ruminants. Leur estomac est composé de 4 compartiments, dont le premier est le rumen. D'abord, ils avalent tout rond, leur nourriture, puis plus tard, ils la régurgitent en la faisant remonter du rumen jusqu'à la bouche où elle est mâchée et remâchée, afin de dégager tout le suc des éléments nutritifs. Alors les aliments s'intègrent parfaitement à leur système sanguin qui pourvoit aux fonctions vitales. Quand un chrétien rumine une citation de la Bible sans hâte et avec soin, le dynamisme et la capacité de la parole se libèrent pour renouveler son esprit. En effet, ce n'est pas l'intellect qui constitue l'essentiel de notre être, mais l'esprit. Pour déployer une influence durable, la vérité doit être assimilée par notre esprit. Elle s'incorpore par le biais de nos pensées, mais nous contemplons et méditons les Écritures, plus elles s'impriment rapidement, efficacement et fortement. Comme par la rumination, l'animal extrait de l'herbe son pouvoir énergétique. Par la méditation, le chrétien distille de la parole de Dieu toute sa puissance de vie. pour pouvoir méditer et capter efficacement le message que Dieu veut nous communiquer, nous devons vivre en rupture avec tout péché connu, trouver notre plaisir dans la parole de Dieu et être prêt à lui obéir. Pour se faire une image juste et adéquate de la personne de Dieu, il faut prendre en compte toutes les données de la révélation biblique. Chaque livre, chaque auteur ou chaque événement relaté pouvant mettre l'accent sur un aspect particulier de la réalité. Par exemple, Abraham n'avait pas toutes les lumières dont l'apôtre Paul pouvait bénéficier. L'histoire du déluge et de l'arche de Noé parlait du Dieu sauveur à quelques-uns, mais aussi du Dieu juge au restant de l'humanité. Le rituel lévitique mettait en évidence les exigences de la sainteté de Dieu qui mettait un monde de séparation entre le Dieu trois fois saint et ses créatures impures. Les 10 commandements soulignaient l'autorité de Dieu qui a le droit et le pouvoir de se faire obéir. Le sermon sur la montagne met l'accent sur la perfection de Dieu qui a une échelle de valeur autrement différente et supérieure de la nôtre. En rédigeant le récit de la vie de Jésus, chacun des 4 évangélistes poursuivait un objectif bien particulier, mais finalement complémentaire. Matthieu avait le souci de démontrer aux Juifs la messianité de Jésus. Marc s'est attaché à montrer en quoi le Fils de l'homme s'est rendu serviteur. Luc a plutôt souligné l'humanité de Jésus. Jean avait le souci d'établir la divinité du Seigneur. Les 4 évangiles, lus ainsi côte à côte, présentent un portrait complémentaire de la personne et de l'œuvre de Jésus venu nous révéler le Père. Découvrir et découvrir et redécouvrir l'excellence de la personne de Dieu. La qualité de notre vie ici-bas dépend de la qualité de notre relation avec le Seigneur, de notre connaissance de Dieu et des expériences que nous faisons avec lui. Il est vital de découvrir la personne de Dieu tout entière dans la Bible, tout entière, pour l'homme tout entier. Nous devrions faire 3 choses pour corriger et développer notre image de Dieu. Méditer et étudier la parole de Dieu pour permettre au Saint-Esprit de nous la révéler. Prier pour que Dieu se révèle à nous dans la vérité de son amour. Obéir pour pouvoir expérimenter dans notre vie personnelle la confirmation de la véracité de sa parole. Ce processus met à contribution les différentes dimensions de notre personne. Notre intellect qui raisonne, réfléchit, cherche à comprendre et analyse. Notre volonté qui nous pousse à appliquer les conclusions qui découlent de ce que nous avons lu. Nos émotions qui nous permettent de réagir face à ce que nous découvrons. Les attributs de Dieu, un mystère révélé. Un attribut est une qualité propre à la personne de Dieu, qui est conforme à la réalité et qui le caractérise. Il faut rappeler que la véritable connaissance de Dieu n'est pas une affaire de cerveau, mais de cœur, et qu'il ne s'agit pas d'un problème intellectuel, mais plutôt spirituel. On accède à la personne de Dieu non par le truchement de la spéculation, mais par le biais de la révélation. Une telle étude ne peut que nous conduire à l'adoration. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Nous allons voir quelques attributs de Dieu. Bon, il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-uns seulement de sélectionnés. Insondable, patient, jaloux, souverain, glorieux, redoutable, parfait, majestueux, immuable, miséricordieux, éternel, fidèle, bienveillant, compatissant, saint, juste, esprit, lumière, incorruptible, créateur, sauveur, juge, tout-puissant, omniscient, omniprésent, sage, amour. Tous ces mots donc correspondent à des passages bibliques. Le nom du Seigneur. La révélation du nom et du caractère de Dieu dans l'Ancien Testament s'est faite de manière progressive. À Moïse, qui voulait connaître le nom de Dieu, du Dieu de ses pères, l'Éternel lui dit « Je suis celui qui suis » Exode 3, 13. Cette révélation du nom de l'Éternel, pour énigmatique et originale qu'elle soit, recèle différentes vérités. Dieu n'est pas prisonnier des limites du temps. Il est le créateur de toutes choses. Dans sa souveraineté, il maîtrise et contrôle toute situation. De plus, l'origine de son existence, comme la cause de sa présence, il ne les doit à personne d'autre qu'à lui seul. Moïse insiste encore pour percer davantage le mystère de Dieu. Le Seigneur accéda à sa demande. On lit dans Exode 33, 18 à 23. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit encore, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Dans Exode 34, 5, 7, nous constatons le paroxysme de cette révélation. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » La révélation totale et définitive de Dieu, nous la trouvons en la personne de Jésus. Rayonnement de la gloire de Dieu et expression de son être. Et nous lisons dans Hébreux 1, 3, « En qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Dans Colossiens 2, 9, « J'ai manifesté ton nom aux hommes. » Dans Jean 17, 6, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai encore connaître. » Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Connaître Dieu pour l'aimer. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. En Jean 17, 3. Selon Dieu, la vie véritable consiste à jouir d'une relation personnelle et intime avec lui, par Jésus-Christ, et ce, pour l'éternité. Connaître Dieu consiste finalement à se laisser connaître de lui et à se soumettre à lui. Se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ revient à lui remettre tout le trousseau de clés qui ouvre les différentes portes de notre maison, c'est-à-dire de nous-mêmes, en lui reconnaissant le droit de pénétrer dans chacune des pièces où il aura son mot à dire et le ménage à faire. On lit dans Marc 12, 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voilà le commandement prioritaire selon Jésus. Je ne peux pas aimer Dieu correctement si je ne le connais pas suffisamment. C'est une chose que de connaître des vérités sur la personne de Dieu, c'en est une autre que de vivre en communion avec lui. La connaissance de la bonne doctrine est indispensable, mais non suffisante en soi. Car ce que je connais sur Dieu doit se transformer en ce que je connais de Dieu. Pour connaître Dieu, je dois méditer sur ses attributs, puis l'aimer, je dois l'adorer et pour lui plaire, je dois lui obéir. En conclusion, je lirai dans Matthieu 11, 27, « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Pour avoir accès à la personne de Dieu, nous avons besoin de l'éclairage et de la direction du Saint-Esprit, qui met en lumière ce que je ne saurais voir livré à moi-même. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10. Voilà ce que j'ai essayé de vous dire sur l'image que l'on peut se faire de Dieu.